9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour auditrices et auditeurs, Maître Serran est ravi en ce 5 novembre 2021 de vous retrouver afin de tenter, comme toutes les semaines, de répondre à vos interrogations, à vos questions, voire même à vos doutes. Et oui, l'avocat est aussi un peu psychologue. Mais avant de vous permettre de nous appeler, petite histoire de Maître Serran qui m'a quelque peu exaspéré samedi dernier, mais qui s'est bien terminé. Alors que samedi dernier, j'étais de bonne humeur, je devais me rendre au centre de rétention pour visiter un client. Et je rappelle qu'un centre de rétention est un lieu où sont placés des étrangers en situation irrégulière. Et pour m'y rendre, je suis passé par la ville d'Aulnay-sous-Bois. Quelle ne fut pas mon erreur, je roulais tranquillement et là je croise un cortège de véhicules klaxonnant gentiment. Je vois de très jolies voitures, Mercedes, Porsche, Rolls, dans lequel se trouvent les mariés. Ah, les pauvres, me dis-je, mon cher Philippe, ils sont heureux, certes, mais pour combien de temps? Ils sont insouciants. Alors oui, ça va danser ce soir, ça va rigoler. Et après avoir scellé leur union, le quotidien viendra frapper à la porte. Et oui, après, monsieur finira par se demander ce qu'il fout avec ce boudin qui lui sert de femme et qu'il trouvait pourtant sublime et toute fraîche à ses débuts. Après, madame finira par se demander ce qu'elle a bien pu trouver à ce type avec son gros nez complètement idiot qui aujourd'hui lui adresse à peine la parole, sauf pour lui demander ce qu'on mange ce soir. Alors oui, en regardant ce cortège de voitures, j'ai vu défiler la vie de ce couple et j'avais, tiens, presque envie de leur donner ma carte, car dans très peu de temps, il faudra bien consulter l'avocat pour entamer la procédure de divorce. Et puis, tout d'un coup, je suis sorti de mes pensées, le cortège qui roulait à 2 à l'heure déjà s'est arrêté. Et ce qui devait arriver, arriva. Je vois sortir des voitures, les personnes qui se mettent à danser sur la route. Et, mais les gars, je savais pas qu'on était déjà dans la salle de mariage. Les types sortent des voitures, ils jouent de la derbouka autour des mariés qui dansent et qui avaient l'air contents. J'ai tout de suite vu qu'il s'agissait d'un mariage mixte. On voyait flotter des drapeaux algériens, marocains, de quoi énerver davantage le pauvre Français qui, face à ce spectacle, a dû immédiatement rejoindre un collectif d'extrême droite. Conséquence, des voitures partout, un embouteillage monstre. Mais Dieu n'oublie pas les siens. Je vois un type juste à côté de moi avec un quad qui faisait partie du cortège et qui me dit « Oh, mais Maître Serran, qu'est-ce que vous faites là ?»« Nasser, c'est toi, qu'est-ce que tu fous là ? T'es en train de bloquer la circulation. » Nasser était un ancien client du cabinet. « C'est mon cousin qui se marie. Vous voulez venir ?»« Non, c'est gentil, Nasser. J'aurais juste aimé éviter les bouchons. Attendez, je reviens. » Et Nasser revient avec 3 types qui demandent aux voitures de s'écarter afin que je puisse passer. Et là, alors que les types bloqués devenaient fous, n'arrêtaient pas de klaxonner, je suis passé comme un prince, escorté jusqu'au bout de la rue, où je pouvais enfin circuler tranquillement. Alors, honnêtement, j'étais gêné, mon cher Philippe, par ce privilège. J'avais une pensée quand même pour ces pauvres bolos qui faisaient du surplace. Mais je dois reconnaître que pendant quelques secondes, je me suis senti important. Merci Nasser, tu m'as permis d'arriver à l'heure. Allez, à vous la parole, posez vos questions au 01 53 48 3000, émission sous le contrôle de celui qui a dû se déchaîner dans les mariages quand il était plus jeune, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, VIP à Aulnay-sous-Bois, voilà.
Ça fait du bien.
Mais oui, quand on vous reconnaît, en fait. Les gens vous reconnaissent, Maître Serran, ils reconnaissent votre voix, d'ailleurs.
Oui, alors la voix, à tous les coups, c'est extraordinaire. Que ce soit dans
vous avez la même voix dans la vie qu'à la radio.
Oui. Je ne pensais pas que c'était possible, effectivement, ceux qui ont un talent extraordinaire, donc tout comme moi, par exemple, c'est la même voix.
Et après, il dit, vous avez le physique de Sean Connery.
C'est vrai.
Il
dit ça aussi.
Petit côté chaune.
Ah bah écoutez, alors ça me fait plaisir. Donc j'ai une belle voix et je suis un beau gosse.
Bien, Maître Serran, à qui vous pourrez poser vos questions tout à l'heure au 01 53 48 3000. Toutes vos questions juridiques. Mais cette question, Maître Serran, qui vous est inspiré par votre pratique, après un divorce, est-ce qu'on peut garder le nom de son ex-mari ou de son ex-femme?
Oui, c'est voilà. Vous faites bien de le préciser.
Oui, j'ai précisé parce que j'ai regardé la fiche juridique parce qu'on peut, aujourd'hui, quand on se marie, adopter le nom ou de son mari ou de sa femme.
Absolument, c'est une option qui est totalement envisageable. Alors, dans la pratique, évidemment, c'est assez rare que monsieur adopte, dans le cadre de ce qu'on appelle le nom d'usage, le nom de madame. Donc, voilà, il y a ces vieilles habitudes qui sont encore ancrées, mais c'est effectivement tout à fait possible. Et dans le cadre d'une procédure de divorce, la question se pose assez souvent. C'est-à-dire qu'il y a un principe, d'abord, le principe étant que si vous divorcez, on va couper définitivement les liens entre monsieur et madame.
Ouais.
Et qui dit couper définitivement les liens, dit que madame va reprendre l'usage comme on dit, de son nom de jeune fille. Donc c'est assez fréquent en la matière, mais on a quand même un certain nombre d'exceptions. Et les exceptions, d'abord, ça peut se négocier entre monsieur et madame, c'est-à-dire que dans le cas d'une procédure, qu'il s'agisse d'une procédure par consentement mutuel ou même d'une procédure en dehors du consentement mutuel, alors sauf évidemment un conflit extraordinaire entre monsieur et madame, mais vous pouvez avoir l'autorisation alors de l'un ou de l'autre pour conserver, après le prononcé du divorce, votre nom de jeune fille, on va utiliser ce terme-là parce qu'en règle...
Ou de naissance, voilà, d'ailleurs.
Ou de naissance. Donc c'est vrai qu'avec l'accord du futur ex-conjoint, vous avez la possibilité de le conserver. En dehors de ça...
Ce qui veut dire que ce n'est pas automatique, en fait.
Ah, c'est absolument pas automatique.
Qu'est-ce qui se passe au lendemain du jugement de...
À partir du moment
où le jugement du divorce est prononcé...
À partir du moment où cette question n'a pas été mise sur la table, vous n'avez pas l'autorisation de monsieur, à partir de ce moment-là, vous reprenez votre nom initial avant d'avoir été marié. Et c'est comme
ça... Dès le moment du divorce, comment
voilà,
ça se traduit
en fait, dès le moment du divorce, c'est-à-dire que concrètement, il y a un jugement de divorce qui est rendu. Pour que ce divorce soit opposable au tiers, comme on dit, c'est-à-dire pour qu'il soit reconnu par les uns et les autres, il faut faire ce qu'on appelle les formalités de transcription, pour que ça apparaisse sur vos actes d'état civil. Et une fois que ces formalités ont été réalisées, à ce moment-là, le jugement s'applique de manière absolue. Et donc, à ce moment-là, si sur votre pièce d'identité, il est indiqué le nom d'usage du conjoint, vous devez en principe faire les formalités pour rectifier cette pièce d'identité, alors en remettant tout simplement le jugement de divorce, et auprès de toutes les administrations.
Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus le droit de l'utiliser?
Vous n'avez plus le droit de l'utiliser.
C'est ça.
Ah oui,
ouais.
Vous n'avez plus le droit de l'utiliser à partir du moment, encore une fois, où cette question n'a pas été posée. Vous savez d'ailleurs, très souvent, sur les documents que rédige l'avocat, alors qu'il s'agisse d'un divorce à l'amiable ou d'un divorce en dehors, on va dire un divorce contentieux, on précise la mention en disant « Madame », alors je reprends toujours cet exemple-là, mais « Madame reprendra l'usage de son nom de jeune fille ». Voilà. Donc ça, on l'indique. Donc à partir de ce moment-là, c'est applicable immédiatement. Et non, vous pouvez pas l'utiliser. Mais si vous étiez amené à l'utiliser sans l'autorisation de monsieur, il y a toujours la possibilité, alors évidemment c'est compliqué puisqu'il faut apporter la preuve du côté de monsieur, mais rien n'exclut du côté de monsieur d'engager une procédure pour indiquer que d'abord madame n'était pas autorisée et que ça peut éventuellement constituer un préjudice pour lui. Donc ça c'est dans l'hypothèse où rien n'a été convenu. Mais si vous avez l'accord du futur ex-conjoint ou si vous demandez l'autorisation au magistrat et si le magistrat vous l'accorde, ça pose pas de difficulté. L'autorisation demandée au magistrat est accordée quand on considère que c'est par exemple dans l'intérêt des enfants. C'est-à-dire que si ce sont des enfants en bas âge, effectivement, pour notamment les activités scolaires ou autres, si la maman n'a pas le même nom que les enfants, ça peut causer une difficulté pour les gamins. Si madame est éventuellement connue sous le nom de monsieur, donc là aussi, on considère que ça peut porter un préjudice. Mais, quand bien même ce type d'autorisation serait accordé, il faut savoir que si demain madame était amenée à refaire sa vie, notamment donc à se remarier, cette autorisation qui a été donnée par le juge devient de manière immédiate caduque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous vous remariez, conserver, ce qu'on peut comprendre, l'usage de votre ex. De même, si madame fait un mauvais usage de son nom, vous savez, il y avait eu ce alors ça remonte maintenant à cette vieille jurisprudence. À l'époque, c'était l'ex-épouse de Jean-Marie Le Pen qui avait conservé donc ce
Pierrette.
Nom. Pierrette, je crois. Ça doit être ça. Vous êtes bien au fait. Vous avez tombé sur le magazine dans lequel...
Sur ce fameux magazine à feuilleter, ce catalogue où elle était...
Nue.
Oui.
Et effectivement, on peut considérer que ça salit le nom de monsieur. Et d'ailleurs, un procès avait été engagé. Donc, si votre ex a conservé votre nom et si vous considérez que ce nom est sali en raison de son activité ou autre, bien évidemment, vous avez toujours la possibilité de demander à ce qu'elle ne puisse plus en bénéficier. Mais là encore, ça se fait pas automatiquement en envoyant un petit courrier à madame en lui disant c'est bon, laisse mon nom tranquille. C'est-à-dire que vous êtes obligé de saisir un juge, le juge aux affaires familiales, et de demander donc à ce que le magistrat se prononce à nouveau sur ce point. Et en règle générale, si effectivement on considère que ça peut causer préjudice à l'ex-conjoint, le magistrat donc n'autorisera plus l'intéressé donc à faire usage de ce nom.
Et en cas de décès du conjoint, qu'est-ce qui se passe au niveau du nom?
Alors, même chose, c'est-à-dire qu'en cas de décès du conjoint, vous avez aussi la possibilité, enfin, de conserver le nom de monsieur. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. J'ai pas, en tout cas, même au niveau jurisprudentiel, j'ai pas de vue de dossier ou de situation où, à la suite du conjoint, l'intéressé viendrait dire, pour une raison lambda, monsieur ou madame est décédé, donc j'aimerais reprendre mon nom initial. Donc et sincèrement, je vois pas dans quel cas ça pourrait se produire, ou alors quelles seraient les conséquences. En règle générale, en cas de décès du conjoint, si l'intéressé est amené à refaire sa vie ou à se remarier, donc, à ce moment-là, ouais, évidemment la question peut se poser. Mais en cas de simple décès, je vois pas, même juridiquement, ce qui pourrait, entre guillemets, on va dire, motiver une telle procédure.
01 53 48 3000, Maître Serran. Zora est au standard. Bienvenue, Zora.
Bon.
Oui, bonjour.
Bonjour,
Zora.
Bonjour, Philippe.
Vous allez bien?
Ça va, merci, ça va.
Très bien. Maître Serran, écoute votre question.
Justement, Maître Serran, s'il vous plaît. Voilà, je vous appelle, j'ai un problème là. Déjà, j'ai un problème santé, je suis fragile. J'ai un problème déjà avec le voisin depuis en 2017, tapage, coupure.
D'accord.
Quand au commissariat, chaque jour, ils viennent, des mains courantes, ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit des plaintes courantes. J'ai dit, voilà, même mon fils, on déplace au commissariat, on n'arrive pas à dormir 24 sur 24 le soir. Comment j'ai fait? J'étais au tribunal en mois d'avril dernier. On a fait par le procureur, c'est mon fils qui est parti au tribunal. Après, ils disent qu'encore il faut patienter. Jusqu'à septembre, le procureur, il a répondu au commissariat, 7 mois. Après le commissariat, ils m'ont appelé septembre. Septembre-là, ils m'ont dit, voilà, c'est le commissariat. Moi, j'ai oublié l'affaire-là. Ils m'ont dit, commissariat de Bobigny. Ah, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit, bref. Ils m'ont donné le rendez-vous le 27 septembre. Je suis déplacée. J'ai expliqué la situation. Ça. Après, j'ai ramené des certificats. Le psychologue, parce que je suis une victime, il m'a dit, faut ramener des certificats. J'ai 2 certificats médicaux. Quand j'ai déplacé là-bas au commissariat, j'ai expliqué mon cas. Déjà, j'ai bailleur. Depuis en 2017, quand je déplace au bailleur, parce que le bailleur, ils me connaissent ma situation. Ils me disent, madame, voilà, on a convoqué plusieurs fois. Après, quand ils convoquent le locataire là, je reçois les courriers du bailleur. J'ai 4 convocations de bailleur. Ils ont expliqué, ils ont dit, monsieur, il faut arrêter parce que ils m'ont proposé jusqu'à 2023.
Zora, il faut vraiment qu'on puisse concentrer votre question parce que on va pas avoir le temps. Il y a beaucoup d'appels.
Excuse-moi. Bref, quand je suis partie au septembre là. Voilà, ça, qu'est-ce qui se passe, madame? Ça, j'ai dit, voilà, madame, problème de voisinage jusqu'en 2017, elle est en train de voir le bailleur, ça. Elle a vu des certificats, elle m'a dit, de toute façon, madame, on va le convoquer. J'ai dit, madame, même le bailleur, même ils ont convoqué plusieurs fois, elle m'a dit, madame, calmez-vous là, le bailleur, c'est le bailleur, ça, c'est le commissariat qu'on va convoquer. C'est pas la même chose, le bailleur. Et ça, elle a fait des photocopies.
Zora, la question est de savoir, c'est-à-dire, au moment où on se parle, oui, le commissariat, lorsque il y a eu cet entretien, ils vous ont dit quoi précisément?
Depuis là, elle m'a dit, plus tout possible, on va le renvoyer recommandé pour ce monsieur-là.
D'accord. Alors, je parle du commissariat. C'est-à-dire, est-ce que le commissariat l'a convoqué? Est-ce qu'il y a une confrontation entre vous? Il s'est passé des choses à la suite de votre rendez-vous ou pas?
Ah non, elle m'a dit, on va le convoquer jusqu'à maintenant.
D'accord. Et on vous a dit qu'on allait le convoquer. C'était à quel moment quand on vous a dit ça?
Le 27 septembre, quand j'ai...
D'accord. Alors, ça peut sembler long, et c'est long, mais c'est entre guillemets ce qu'on appelle l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été entendu par le commissariat et que vous avez fait part de cette situation un peu compliquée, donc il sera convoqué. Après, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il va être convoqué et puis il va donner sa version. En règle générale, il y a toujours une confrontation. C'est-à-dire, en gros, pour dire qui dit la vérité, est-ce que vraiment ce type fait du bruit ou pas. Mais alors, je peux comprendre votre impatience et c'est normal. Et je vois que vous êtes particulièrement stressé. Mais si vous avez déjà été convoqué par le commissariat, je le redis, même si ça peut sembler long, il va y avoir une suite, de facto. Il n'y a pas de difficulté.
Est-ce qu'il faut relancer ou c'est automatique?
Non, ce sera automatique. Alors évidemment, il n'y a rien qui vous interdit de leur passer un coup de fil, mais j'ai pas envie, vous savez, les policiers, et ça dépend sur qui vous tombez, ils pourraient considérer que vous êtes pénible et puis faire en sorte justement de dire, ah bah, puisqu'elle nous appelle tous les jours, on va laisser son dossier dans le tiroir. Donc si ça s'est passé au mois de septembre, je le redis, évidemment ça peut sembler long pour vous, mais c'est un délai entre guillemets, avec de gros guillemets, normal. Patientez encore un petit peu, peut-être une petite quinzaine de jours, et puis à partir de ce moment-là, bon, vous pourrez vous autoriser à relancer le commissariat. Donc ça, c'est sur l'aspect pénal. Sur l'aspect civil, ce qui est important, vous m'avez parlé du bailleur, le bailleur est responsable aussi de votre tranquillité. C'est-à-dire qu'il suffit pas simplement que le bailleur convoque monsieur en lui disant arrêtez de faire du bruit, il doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de bruit, quitte à indiquer ou à demander à ce locataire indélicat de dégager des lieux. Donc si demain vous engagez une procédure sur le plan civil, donc je ne parle pas du commissariat, mais sur le plan civil, vous avez la possibilité de poursuivre et ce locataire pénible, mais le bailleur également. Le bailleur a cette obligation d'assurer aussi la tranquillité des autres locataires.
Maître, pardon, excuse-moi, je vous laisse. En adhérant justement chaque soir, mon fils, il a la famille nombreuse. Après, quand je tape, mon fils, il tape sur le mur, leurs enfants, ils me tapent sur le mur à 3h du matin. À 1h du matin, j'arrive pas à dormir.
Mais famille nombreuse, c'est-à-dire quoi? C'est des petits-enfants, ils sont tout petits et ils font du bruit. C'est quel type
la
de famille?
Parce que la commissaire m'a dit qu'elle bruit les portes et la télévision à fond jusqu'à 5h du matin. Le papa, il vient de temps en temps, il fait des excuses, je respecte comme mon père. Après, j'ai dit, s'il vous plaît, il faut arrêter comme ça. Ça y est, c'est bon. Quand le bailleur, ils ont convoqué, ils ont dit, c'est bon, parce que cette dame-là, on connaît. S'il vous plaît, il faut arrêter, sinon tu risques contre. Après, s'il vous plaît, madame, ils viennent. Je dis, maintenant, je ne vends plus la porte. C'est bon, j'ai un problème de santé, s'il vous plaît, il faut arrêter. La santé, avant tout, j'ai des certificats médicaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut arrêter. Hier, à 3h du matin, encore, ça recommence la télévision à fond. Parce que c'est normal.
Ouais, mais non, mais évidemment, madame, que c'est pas normal. On voit bien que vous êtes en train de souffrir. Maintenant, je le redis, si effectivement ce type ne comprend pas, vous serez obligé de le poursuivre devant le tribunal et ça engage la responsabilité du bailleur. Le bailleur a deux options. Soit il fait en sorte que ce type dégage, soit on fait en sorte, éventuellement, mais dans ce cas-là, avec votre accord, de vous proposer un autre logement qui puisse vous convenir. Mais le bailleur est responsable. Il suffit pas non plus d'envoyer un petit courrier et puis de dire, moi, je l'ai convoqué, je peux rien faire. Il y a une obligation. Vous réglez votre loyer, vous avez le droit à votre tranquillité.
Mais vous dites qu'il y aura une confrontation au commissariat.
Oui, bien sûr. Si le type a été entendu, il va donner sa version.
Et il n'a pas été entendu encore, là.
Non, enfin, voilà. Quand il sera entendu, c'est normal qu'on confronte les deux. Ça veut pas dire que madame dit n'importe quoi, mais bon. Là, le principe du contradictoire, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est long. Et on voit bien que cette femme souffre et malheureusement, on considère que ces problèmes de voisinage, ce sont pas des problèmes prioritaires, c'est toute la difficulté. Donc je crois que ça pourrait aller plus vite, madame, si vous étiez plutôt sur une procédure civile et pas pénale.
Voilà ce que Maître Serran pouvait vous dire, Zora, ce matin. D'autres appels dans un instant. Si vous voulez interroger et poser vos questions à Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui répond à vos questions 01 53 48 3000. On est en train de se demander si Maître Serran vous officiez le 12 novembre, le lendemain du 11 novembre.
Oui, mais absolument.
A priori, écoutez, vous êtes là.
Si ça tenait qu'à moi et si Dieu me prête vie, je devrais être là.
Bien. Alors, nous avons Naïma qui est là au 01 53 48 3000. Naïma, vous êtes la bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour Naïma.
Bonjour, j'ai une question s'il vous plaît, en fait, bête sûrement, je sais pas, mais en fait, mon futur ex-mari, nous sommes séparés en fait depuis cet été, et il avait eu un accident corporel de la route, en moto l'année dernière. Je voulais savoir, en fait, parce que comme entre guillemets, tout assumé pendant 6-7 mois, il était alité, il était à l'hôpital. Et j'ai fait tout le dossier avec l'avocat pour le suivi de son dossier d'assurance. Je voulais savoir si après, qui percevra en fait la somme de l'assurance. Je voulais savoir si j'aurais droit à quelque chose ou pas.
Alors oui, vous, tant que vous n'êtes pas divorcé, vous avez le droit. Donc là, il y a pas de difficulté. Après, évidemment, moi je trouve ça toujours. Alors la question est intéressante.
Hein, est-ce qu'il faut gagner du temps?
Voilà, vous avez indiqué que la question est bête. Non, elle n'est pas bête du tout. Elle est tout à fait légitime.
Les questions d'argent ne sont jamais bêtes.
Ouais, hein. Mais bien sûr. Donc non. Oui. Écoutez, tant que le
énormément d'argent en fait pendant son année d'accident. Ouais. Et au final, voilà, j'aurais cru avoir quelque chose, mais vu qu'on est séparés, là, je pense pas que...
Bah, mais c'est-à-dire que là, votre question est de dire de ce qui va pouvoir éventuellement bénéficier à la suite de son accident, de sa souffrance, vous posez la question de savoir est-ce que vous avez légitimement ou pas
droit à une partie du magot,
une partie de cet argent.
Oui, en sachant que j'ai souffert aussi, même si c'est vrai que c'est lui qui a fait la question.
Oui, enfin, voilà.
Après, l'avocat m'a posé beaucoup de questions en me disant est-ce que c'est vous qui avez assumé tout à la maison, les allers-retours à l'hôpital, etc. Oui, j'ai
ouais, non, mais... La question est légitime et je le redis, tant que le divorce n'est pas prononcé, bien évidemment, il n'y a pas de difficulté. Après, voilà, moi je considère, mais ça n'engage que moi, et vous ne m'avez pas appelé pour donner mon avis, mais je m'autorise à le donner. Moi je considère qu'il s'agisse de monsieur, ou si ça avait été vous, j'aurais apporté la même réponse. Moi je considère qu'à partir du moment où quelqu'un est blessé dans sa chair, les dommages intérêts qui doivent lui revenir, eh ben lui reviennent de facto. Donc je vois pas au nom de quoi moralement, hein, je parle pas juridiquement, oui. Mais je vois pas au nom de quoi moralement il faudrait donner une partie de oui. Ces dommages et intérêts pour une souffrance. Alors oui, vous avez fait des allers-retours, vous avez été le voir et c'est bien et c'est une bonne chose. Mais voilà, je me dis, dans ce cas-là, c'est entre guillemets un peu monnayé, je trouve ça un peu dommage. Mais sur un plan purement juridique, vous n'êtes pas divorcé, vous pouvez jouer là-dessus.
Enfin, et comment on peut jouer là-dessus? Parce que vraiment, en fait, c'est lui qui a eu l'accident, mais moi, pendant un an, je vivais plus. J'ai deux bébés en bas âge, j'étais enceinte, j'assumais tout et les yeux fermés. Après, je ne demande pas forcément, voilà, mais voilà qu'on me... Vu que maintenant il est parti.
Ouais. Enfin bon, c'est très souvent une question de femme, ça. Encore une fois, hein, je veux pas jouer le pénible, ouais. Mais en règle générale, les hommes, même si madame, il lui arrive quelque chose ou si elle va bénéficier d'un montant, moi sincèrement, de par mon expérience, j'ai jamais ce type de question posée par les hommes. Mais écoutez, vous avez un avocat, c'est-à-dire qui pourra prendre ce qui s'appelle des conclusions. Les conclusions, c'est quoi? C'est remettre ça en avant. Ce sont des éléments nouveaux, donc il les mettra en avant devant le magistrat. Après, ce sera statué, mais il va falloir que votre avocat donc mette en avant cette situation, la souffrance que vous avez pu avoir, le fait d'être effectivement présent dans ce cas-là, j'allais dire 24 heures sur 24, parce que la situation de monsieur, le fait de d'avoir fait des allers-retours pour aller voir monsieur. Donc oui, juridiquement, alors je dis pas que de facto vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais juridiquement ça se tient. Après, je vous dis, la question morale, c'est autre chose. Et voilà, moi, je suis pas imam, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais juridiquement, oui, vous pouvez inviter votre avocat, mais il doit le savoir aussi bien que moi, à prendre si le divorce n'a pas été prononcé, à prendre des conclusions. Et ce sont des écritures pour dire, voilà, maintenant, il s'est passé une nouvelle situation. Et donc, compte tenu de cette nouvelle situation, voilà ce que madame sollicite.
D'accord, donc c'est avec mon avocat du divorce.
Ah oui, voilà, oui, ça reste le même avocat, bien sûr. Hein, c'est l'avocat du divorce qui mettra en avant ces éléments-là.
D'accord, ok. Merci beaucoup.
Merci Naïma pour votre question. Alors on accueille.
Merci, bonne journée.
Bonne journée Naïma, bonne route. Nazim, bienvenue Nazim. Nazim. Bonjour.
Je me permets de vous appeler, je ne vais pas être long. Voilà, j'ai construit une maison. Je suis en train de la finir, alhamdoulilah. Je voulais savoir, mon voisin, il a fait un grillage et il dépasse de 20 cm à l'intérieur, en fait les fondations des poteaux de son grillage dépassent de 20 cm à l'intérieur de mon terrain. D'accord ? Le problème qui se pose, c'est que là, ils nous attaquent en justice parce que j'ai fait une passerelle pour handicapés. Et ça l'embête parce que, soi-disant, j'ai une vue directe sur son jardin. Or, j'ai mis des brise-vues et tout, on voit zéro. C'est-à-dire, on voit absolument rien du tout.
D'accord, donc là, mais il vous a poursuivi, c'est-à-dire vous avez une date d'audience, il y a un juge qui a été saisi ?
Non, pas encore, il y a un expert qui va passer.
D'accord.
Il y a un expert qui va passer.
C'est un expert désigné par un tribunal ?
Non, c'est l'expert de son assurance.
D'accord.
Voilà. Et le problème qui se pose, c'est que, est-ce que j'ai le droit de lui dire d'enlever les 20 cm qui se trouvent dans mon terrain ?
Ah monsieur, à partir du moment où vous avez un voisin qui joue le pénible, si dans un premier temps vous l'avez toléré, ce qu'on peut comprendre justement pour avoir bonnes relations, mais s'il joue le pénible, il n'y a aucune raison à votre tour de pas faire la même chose et puis d'indiquer qu'il a empiété sur votre terrain, évidemment.
Voilà, parce que le problème qui se pose, c'est que j'ai décalé ma maison de 70 cm pour ne pas construire en limite de propriété, pour ne pas lui boucher entièrement la vue. D'accord ? Et du coup, voilà, maintenant, il m'embête avec ça. Donc du coup, j'ai le droit de lui dire d'enlever...
Ah, mais évidemment, encore une fois, si vous me dites que de par le plan cadastral de l'un et de l'autre, vous pouvez prouver qu'il empiète sur votre terrain, dans ce cas-là, c'est carré, le type joue le pénible. Mais il sait qu'il a empiété sur votre terrain ou pas ?
Ah oui, il le sait.
Il est ultra pénible alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a empiété, il pourrait ne pas jouer le compliqué. Donc non, écoutez, si c'est un voisin qui vous embête, à votre tour, vous avez également matière à l'embêter aussi, et puis il n'y a aucune raison de lui faire ce cadeau-là, évidemment.
Bah très bien, parce que c'est quand même sur une longueur de 20 mètres, hein.
C'est-à-dire qu'il est totalement idiot, c'est-à-dire qu'il a quand même, qu'on le veuille ou non, plus à perdre que vous, donc c'est un peu idiot comme stratégie. Mais écoutez, encore une fois, il n'y a aucune raison d'être sympa avec des gens qui vous embêtent pour pas dire autre chose.
Très bien, j'attendais juste cette réponse et je vous remercie infiniment.
Merci à vous pour votre appel.
Bonne journée.
Merci bien.
Merci. Nazim, on va marquer une petite pause, Maître Serran, le temps de vous réchauffer la gorge, et vous répondrez à d'autres questions dans un instant, des questions juridiques au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Vous posez vos questions à Maître Serran en direct jusqu'à 10h au 01 53 48 3000. On a Lila qui est avec nous. Lila, bienvenue.
Oui, allô ?
Oui, c'est à vous Lila. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Bonjour Lila.
Oui, je suis avec Philippe, c'est ça.
Philippe et Maître Serran.
Et Maître Serran, oui. C'est toujours un plaisir, Monsieur Philippe, de vous avoir au bout du fil.
Écoutez, le plaisir est partagé, Lila.
Merci.
Sinon, me parler, vous en avez strictement rien à battre.
Rien à faire, Maître Serran, rien.
Ouais, on passe. Au revoir, Lila, et bonne journée. On vous écoute, Lila.
On vous écoute, Lila. Oui.
Oui. Enfin, j'ai une question par rapport à la kafala. Est-ce qu'on peut faire une kafala à sa nièce, pour la ramener d'Algérie ? Et si oui, quelle est la procédure ?
Ah oui, bien sûr, vous pouvez faire une kafala à votre nièce, il n'y a pas de difficulté. Donc, il y a deux types de kafala. Il y a une kafala qui se fait auprès d'un notaire, et donc on va d'abord vérifier l'accord évidemment de l'intéressé, mais surtout l'accord du ou des parents. Et puis vous avez une kafala judiciaire. Et en règle générale, c'est motivé comment ? C'est-à-dire qu'on considère que le ou les parents, alors quand ils sont vivants, ne sont plus en capacité de pouvoir s'occuper de leur fille, de leur fille ou de leur garçon, de pouvoir subvenir aux besoins. Et à partir du moment où cette kafala vous est accordée, vous avez la possibilité. Normalement, je suis désolé, ça va être un petit peu compliqué, mais en principe, la kafala doit être applicable sur le territoire français. Ça concerne ce qu'on dit en droit, l'état des personnes, mais les administrations françaises sont toujours compliquées, et pour éviter ces complications, on fait ce qu'on appelle une procédure d'exéquature. C'est-à-dire qu'on demande à un juge français de transformer cette kafala, donc cette décision étrangère, en jugement français. Mais Je dois reconnaître que depuis quelques années, auparavant c'était quasi automatique, le juge faisait l'exéquature, il n'y avait pas de difficulté, le procureur de la République s'y opposait pas. Depuis quelques années, on a des procureurs de la République et des magistrats en France qui deviennent un peu compliqués, se sont rendus compte que c'était une manière, entre guillemets, détournée ou déguisée de faire venir des personnes qui, dans d'autres circonstances, n'auraient pas pu arriver sur le territoire français. Donc là, j'ai des dossiers d'exéquature. Alors, l'exéquature est toujours possible, mais on voit bien qu'on a des procureurs et des juges qui posent des questions de plus en plus pointues, qui demandent beaucoup de détails. C'est plus, j'allais dire, avant c'était automatique, ça l'est plus. Donc c'est vraiment une bataille, mais ça reste toujours d'actualité. Et une fois que vous aurez votre décision de kafala, vous pourrez faire sur le territoire français une exéquature. Et donc, si vous faites une exéquature, juridiquement, vous êtes autorisé à faire venir l'intéressé sur le territoire français.
Et la procédure, elle est longue ou
Ouais, c'est une procédure qui est assez longue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la kafala, bon, ce que je vous dis là n'est pas mathématique, mais on pouvait obtenir une exéquature, allez, on va dire en 8 mois. Maintenant, on est passé à 1 an et demi quasiment. D'accord. Mais il n'y a pas d'autre option. Enfin, voilà. Oui. Je vous dis, les procureurs, les juges deviennent très suspicieux et donc un peu compliqués. Bon, voilà, il faut quand même batailler, mais ça aboutit.
Il faut commencer d'abord la kafala.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non. Il faut avoir déjà sous le coude une décision de kafala. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pouvez entamer une procédure d'exéquature.
D'accord. Et ça, c'est soit au niveau du tribunal, enfin, ça se fait au niveau du tribunal.
L'exéquature ?
Oui.
Oui, l'exéquature se fait au niveau du tribunal et l'avocat est obligatoire.
Ah, il faut prendre un avocat.
Ah oui, c'est obligatoire. Hein. Là, il n'y a pas d'autre option. L'avocat est obligatoire dans ce type de procédure et le tribunal, c'est celui du lieu où vous habitez. C'est le tribunal judiciaire, l'ancien tribunal de grande instance. Donc c'est celui du lieu où vous habitez. Donc dès que vous avez cette kafala,
du département, oui.
Voilà. Et dès que vous avez cette kafala, donc il faudra faire cette exéquature.
D'accord. Et dans le cas enfin où ça marche pas, enfin c'est juste entre guillemets, est-ce qu'on peut demander un visa simple et faire venir l'enfant?
Non. Alors quand vous me dites dans le cas où ça marche pas, c'est-à-dire si vous obtenez pas la kafala?
Oui.
Non, bah évidemment que non, mais ça peut, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais ça peut sembler logique. Au nom de quoi ? C'est-à-dire que si l'enfant est mineur, par définition, l'enfant mineur doit rester avec ses parents, avec ses parents, donc mais papa et maman, donc les parents biologiques. Donc oui. Non, le théoriquement, il y a rien qui vous interdit de solliciter, en tout cas, il y a rien qui interdirait de solliciter un visa pour l'enfant, mais honnêtement, vous l'obtiendrez pas. Donc non, oui. Ça c'est injouable.
D'accord, ok. Bon, ben merci beaucoup pour vos réponses.
Merci à Lila pour votre appel.
Bon, merci, au
revoir. Vendredi, Hassen au 01 53 48 3000. Hassen, bienvenue.
Bonjour, Philippe, bonjour, maître
Serhan. Allez jusqu'au bout, maître Serhan, en arabe, et maître Serhan, si vous voulez le franciser.
Okay,
bonjour, Hassen.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe BFM.
Qu'est-ce qu'on fait pour vous, Hassen ? Dites-nous.
Ma question elle est un peu simple. Simple, non, je crois pas. Bon, je suis en instance divorce. Ma femme, elle a effectué un crédit pendant les années de mariage. Et là, on est en instance divorce. Et là, il me demande de payer le crédit avec elle.
Bah ben oui, c'est le principe.
Vous avez fait le crédit.
Il n'y a pas de contrat de mariage, Hassen.
J'étais pas. Non, il n'y a pas de contrat de mariage. Sauf que quand on a fait le crédit, moi, j'étais pas au courant.
C'est un crédit de quelle nature ? C'était pour.
Perso, quand j'ai demandé à la banque des infos sur le crédit, ils m'ont dit monsieur, il n'est pas à votre nom, on ne peut pas vous donner des infos, parce qu'il n'y a que le nom de madame.
Alors, ça, c'est une vraie question, mais il faut savoir que si vous êtes marié.
Si, on est marié, oui.
Voilà. Donc, on considère, ça, c'est la règle, que le crédit qui a été contracté par monsieur ou madame est un crédit commun. Ça signifie que même si seule madame en a bénéficié, ou alors si ça avait été monsieur, celui qui a bénéficié de cette somme d'argent et qui ne le rembourse pas, moi, banque, moi, société de crédit, je peux me retourner contre le conjoint. Maintenant, il y a plusieurs sortes de crédits. Il y a des crédits où on est obligatoirement, on demande la signature de monsieur et de madame. Alors très souvent, vous savez, les crédits qu'on peut contracter très rapidement via Internet et autres, on vous envoie des formulaires et puis on vous demande de les renvoyer avec des signatures. Alors très souvent, on a des signatures qui ont été imitées, des signatures bidons de monsieur ou madame, en gros pour dire mais je suis marié mais mon conjoint est d'accord pour le crédit, on renvoie ça et puis la somme d'argent est accordée. Et ensuite, quand il y a des problèmes, on se retourne contre les uns et les autres. Donc si c'est le cas, évidemment, ce sera à charge pour celui qui dit « mais moi, j'ai jamais rien signé » de contester cet aspect-là ou de demander à l'organisme de fournir les documents pour vérifier s'il y a bien l'autorisation, si à un moment ou à un autre, vous avez bien été informé de ce crédit. C'est un crédit qui est important au niveau du montant ?
Oui, c'est 14 000 euros quand même.
D'accord. Et madame, enfin, le but de ce crédit, quoi, c'était une voiture, c'était quoi ?
Je sais même pas. Je savais même pas qu'il a emprunté 14 000 euros. Alors, quand je suis parti à la banque pour demander des infos, ils m'ont dit, monsieur, désolé, le crédit n'est pas à votre nom. C'est juste le nom de madame. Madame.
D'accord. Enfin, il vous dit ça, mais alors qui vous poursuit, là, pour dire, attendez, faut payer ?
Bah, maintenant, parce qu'elle, elle a demandé ça, comme on est en séance divorce. Et la juge, elle lui a accordé ça. La juge m'a dit tu dois payer la moitié.
Ah ouais, mais alors, voyez l'argument que vous êtes en train d'invoquer, c'était alors vous aviez un avocat, j'imagine, non ?
Oui, j'ai.
Bon, bah c'était peut-être. Alors encore une fois, il s'agit pas de dire que l'avocat s'est planté ou pas, j'en ai aucune idée, mais est-ce que cet aspect-là a été évoqué avec votre avocat ? Est-ce qu'il a indiqué au magistrat ce que vous êtes en train de nous préciser ?
Oui, j'ai tout expliqué à mon avocate.
Non, alors ça, d'accord, mais est-ce que l'avocat l'a expliqué au juge ?
Bien sûr. Déjà, dès le début, il m'a dit vous êtes tombé sur une juge qui n'aime pas les hommes. Non.
Non, mais honnêtement, alors autant il y a de plus en plus de magistrates sur le territoire français, ça c'est vrai, mais on ne peut pas raisonner en disant il y a un juge qui n'aime pas les hommes ou qui n'aime pas les femmes. Sincèrement, on fait du droit, on n'en fait pas. Donc ça n'a rien à voir avec une histoire de sexe.
Là, je suis obligé de payer le
ah bah si, voilà, si vous me dites que le magistrat a rendu la décision et qui dit le crédit doit être divisé par deux, sauf à faire appel, c'est-à-dire sauf à contester. Si vous ne contestez pas, oui, il faudra appliquer la décision à la lettre.
Elle a toujours payé toute seule depuis 2018.
Non mais indépendamment de ça, monsieur, c'est-à-dire que vous voyez, tous ces arguments-là sont des arguments qu'il aurait fallu, je le redis, moi je ne remets pas en cause le travail de ma consoeur, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, ce qu'elle a pu dire au tribunal. Mais si vous me dites qu'il y a un jugement qui a été rendu, qui dit que le crédit doit être divisé par deux et donc monsieur doit régler la moitié de ce crédit-là, à part faire appel, si vous êtes dans les délais évidemment, à part faire appel, il n'y a pas d'autre option. Si vous ne faites pas appel, eh ben, il faudra appliquer la décision à la lettre.
Oh, franchement, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire, moi, franchement.
Bah, je viens de vous répondre.
Ouais, c'est ce que... Pour faire appel, il faut combien de temps ?
Ah, ben là, à partir du moment... Alors d'abord, encore une fois, encore faut-il être dans le timing, c'est-à-dire que vous avez un délai de 30 jours à partir du moment où la décision, elle est, voilà, elle est signifiée. Alors signifiée, ça veut dire que le jugement, vous avez demandé à un huissier de le remettre à madame, ou madame a demandé à un huissier de vous le remettre. Ça, on appelle ça la signification. Alors dans ce cas-là, c'est un jugement qui a été rendu quand ?
Je sais pas, il y a, on va dire, il y a 2-3 mois.
Écoutez, tant que cette signification, c'est-à-dire que tant qu'un huissier n'a pas débarqué chez madame, ou madame vous a pas envoyé un huissier, le délai d'appel ne court pas. Il court à partir de ce moment-là. C'est un délai qui est court, c'est 30 jours. Et à partir de ce moment-là, si, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec la décision, vous avez la possibilité d'interjeter appel, comme on dit, donc de demander à d'autres magistrats de se prononcer sur ce jugement. Le délai d'appel, quand ça va vite, c'est à minima une année.
Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est 18 mois pour faire appel.
Non, c'est pas 18 mois pour faire appel. Lorsque la cour d'appel, elle a le dossier entre les mains, quand elle va très vite, elle met à peu près 12 mois pour rendre la décision. Mais vous avez que 30 jours pour faire appel.
30 jours après le courrier.
Voilà, après, voilà, ça s'appelle la signification. Moi, voilà, c'est 30 jours à partir de ce moment-là.
Moi, j'ai pas encore reçu le courrier de l'huissier. C'est juste l'avocate elle m'a envoyé la conclusion de la décision de la.
Ah non, voilà, le délai il court pas à partir du courrier de votre avocat. Le délai il court si demain il y a un huissier qui débarque chez vous. À partir de ce moment-là, il faut attendre. Vous avez 30 jours pour saisir la cour d'appel.
Ok, merci beaucoup, maître.
Merci à vous et bon courage.
Merci à l'équipe de BFM. Merci beaucoup. Au revoir, bon courage.
Au revoir.
Merci beaucoup, Hassan. Est-ce qu'on a le temps de prendre Ibrahim en 4 minutes ? Ibrahim, bienvenue. Ibrahim.
Oui, bonjour, monsieur Philippe.
Bonjour, monsieur Ibrahim, comment ça va ?
Ça va et vous, ça va ?
Ça va bien. Ça fait plaisir de vous bonjour, entendre. Et maître Serran est ravi aussi.
On n'oublie pas le maître aussi.
Tout à fait. Bonjour, Ibrahim.
Voilà. Bonjour, le maître. Voilà, j'ai une petite question rapidement. Voilà, moi, je souhaite déposer un dossier de naturalisation. Et je suis agent de sécurité. Et par contre, j'ai un collègue qui a déposé. Il a eu, mais un autre collègue aussi, un agent de sécurité, qui l'a été refusé. Et pour que la réponse, parce qu'il faisait deux boulots. Je souhaite savoir. Parce que moi, j'ai deux boulots aussi. Je ne sais pas si je dois déposer. Ouais.
Alors, c'est une vraie question, parce que pour des raisons assez particulières, les autorités françaises ont parfois sanctionné les personnes qui avaient deux boulots, en gros, en disant « vous travaillez trop ». Donc, ça peut sembler curieux, mais il y a des décisions qui ont été rendues comme ça. Ensuite, on a eu un jour une déclaration de la ministre Marlène Schiappa, donc qui a indiqué qu'on ne pouvait pas sanctionner les gens au motif qu'ils travailleraient trop. Je dois reconnaître qu'elle ne fait pas beaucoup de choses intéressantes, mais là, elle a été inspirée parce que j'ai moi-même eu au sein de mon cabinet des réponses en disant « votre client travaille trop, donc on ne veut pas le naturaliser ». Et à la suite de cette déclaration, quand on a fait des recours auprès du ministre, donc on a eu des réponses positives, c'est-à-dire que on n'était même pas obligé d'aller devant le tribunal. Le fait entre guillemets de travailler trop, puisque c'était le reproche qui était fait, c'est plus un argument qui est valable. Donc ça peut s'arrêter dans le cadre d'un recours hiérarchique ou même devant un tribunal. Donc aujourd'hui c'est un argument qui est un peu débile et un peu stupide et donc qui est contestable. Et vous avez sincèrement donc la possibilité et en tout cas une forte possibilité d'obtenir gain de cause. Donc même si voilà, faut pas que ce soit une crainte. Même si l'administration est bête et méchante et vous dise non, si vous contestez, ça devrait aller dans votre sens.
Parce que moi, maître, je vous dis la vérité, moi j'étais dans les chantiers, je travaillais dans les chantiers, j'avais pas de repos carrément. Et là, j'ai du boulot, j'ai plus de repos que dans les chantiers.
Ouais.
Je suis à l'aise. Et je travaille dans une école, je suis à l'aise, je suis agent de sécurité, j'ai du boulot, je suis gardien agent de sécurité. Et j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de repos. Hein.
Non, mais encore une fois, je vous le redis, c'est-à-dire que cette habitude, entre guillemets, de sanctionner les gens au motif qu'ils travailleraient trop, enfin voilà, c'est totalement débile. Donc, non, maintenant c'est jouable. Il y a eu un changement de doctrine, c'est-à-dire qu'on considère que ça peut pas être un argument avancé. Maintenant, il y a des administrations qui sont indécrottables, mais ça vaut le coup de contester si demain vous avez un refus motivé là-dessus.
Ok, d'accord. Je vous remercie beaucoup.
Maintenant. Merci à vous pour votre appel.
Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée à vous, monsieur Philippe.
Bon, merci, Brahmi. Et travaillez pas trop, quand même.
Non, je suis à l'aise. J'ai beaucoup de repos. Voilà, je suis à l'aise. J'ai pas de soucis.
Bon, vous êtes en. Parce que souvent, les agents de sécurité cumulent les emplois de nuit et de jour, souvent. Donc,
Moi, j'ai un planning qui me satisfait. J'ai du repos pour ma famille. Tout ça, je suis à l'aise. Voilà, j'ai de la chance.
Vous avez raison.
Ce boulot-là, deuxièmement.
Bien. Merci, Brahim. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt, maître Serran. Pour tous ceux qui n'ont pas pu vous joindre aujourd'hui, qui sont restés à la porte de l'émission, eh bien, il y a une deuxième solution. On peut vous appeler.
Frustré.
Oui, mais il y a beaucoup de frustration. Ouais,
d'accord. Je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Donc là, pas de frustration. Vous pouvez appeler maître Serran qui vous répond, bien sûr. Et une adresse mail pour les plus courageux d'entre
vous.
Oui,
c'est vrai. Vous pouvez également m'envoyer un mail sur maître, M-A-I-T-R-E, hein, pas d'accent circonflexe, .serran, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Voilà, notez maître Serran que je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h. C'est l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun.
Je serai là. Je vais peut-être même le remplacer.
C'est vrai? Non, mais vous pouvez venir. Ça nous fera plaisir. Vous venez avec des croissants, par exemple. Hein. Je sais que ça fera plaisir à l'imam Abdelali.
Ah, l'imam, oui, je m'en doute.
Donc venez demain, passez une petite tête et je vous proposerai un chocolat, maître Serran. À volonté. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous tout à l'heure à 11h pour vos petites annonces de l'emploi.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.